les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1981, Jean-Louis Barrault s'entretenait avec Guy Dumur pour une série de 10 émissions. Dans les 6e et 7e volets de cette rencontre, il racontait les circonstances de la fondation de la compagnie Renaud Barrault et les années de création pendant lesquelles, entre 1946 et 1956, la troupe fut installée au théâtre Marigny. On apprendra ainsi comment Gide accepta d'adapter le procès de Kafka grâce à la chute opportune d'un lustre, ou encore comment Claudel se résolut à confier son partage de midi grâce à l'intervention d'un confesseur. Barrault évoquait aussi son admiration pour Brecht, ses mises en scène de « Occupe-toi d'Amélie » de Feydeau, de « L'état de siège » de Camus, du « Pour Lucrèce » de Giraudoux, ou encore d'une Orestie qui dut beaucoup au voyage de la compagnie en Amérique du Sud et en Asie. Il racontait enfin le récit de sa rencontre avec un jeune musicien qui fut le directeur musical de la compagnie pendant toutes ces années, un dénommé Pierre Boulez. Entretien avec Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, 6e et 7e volet, diffusé pour la première fois les 23 et 24 février 1981.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Par Guy Dumur. Aujourd'hui, 6e émission, fondation de la compagnie Renaud Barrault.
Silence !
Nous vous avons quitté, Jean-Louis Barrault, la dernière fois, après une carrière déjà extrêmement remplie, et nous sommes en 1945, et vous avez quitté la Comédie-Française.
46.
En 1946 seulement. Mais le Marigny, pourtant, a été créé au même moment.
17 octobre 46.
Ah oui, tout de suite. Alors donc, vous êtes allé vite.
Ah bah oui.
Mais alors, quand vous êtes, tout de même, ça ne s'est pas fait un jour.
Avec Claudel, nous avions une devise qui nous réjouissait. C'était « mal, mais vite ».
Oui, mais enfin, alors donc, quand vous avez décidé tout de même de quitter la Comédie-Française, c'était un petit peu plus tôt, et vous avez tout de suite eu l'idée de créer votre compagnie.
C'est cela.
Est-ce que cette idée, Madeleine Renaud l'avait eue en même temps que vous? Comment ça se passait entre vous? Parce que ça s'est appelé tout de même la compagnie Renaud Barrault tout de suite.
Ah oui, bien sûr.
Et alors, comment ça se passait? Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle-même pesait dans les décisions? Est-ce qu'elle jouait un rôle là-dedans?
Absolument.
Ou bien est-ce qu'elle vous suivait comme l'épouse?
Non, une association très étroite, mais bien entendu, comme moi j'avais un petit peu le département de l'animation et des metteurs en scène, etc., ben j'assurais plutôt ce département-là, mais je n'avais qu'une idée, c'est mettre Madeleine en valeur comme actrice et lui faire de jouer des beaux rôles.
Et alors, créer une compagnie en 1946, c'est quand même, ça n'est pas rien, ou à n'importe quelle époque, surtout une compagnie importante s'installant dans un théâtre.
Ce n'est pas une rupture dans notre existence, c'est une conséquence de ce que nous avons reçu.
Oui, ça je comprends, mais je veux dire que les difficultés devaient être tout de même très grandes.
Bien sûr. Oh ben, l'histoire de notre compagnie, c'est l'histoire d'un million de centimes. Et je faisais du cinéma à ce moment-là, et nous en faisions, et j'avais tourné Le Cocu Magnifique de Cromelinck à Bruxelles. Avec mon cachet du Cocu Magnifique, nous avons créé la compagnie. Comme il nous manquait un petit peu d'argent, parce que ce n'était qu'un million de centimes, nous avons emprunté 500 000 francs au taux de l'or. Et comme nos deux premiers spectacles ont été un triomphe, au bout de quelques semaines, on a pu rembourser ces 500 000 francs. Très rapidement, parce qu'au taux de l'or, on se méfiait, n'est-ce pas? Et voilà, et c'est depuis 34 ans, ce million tourne. C'est-à-dire qu'il a augmenté, puis il s'est résorbé, puis nous sommes partis à l'étranger, puis on a essayé de se débrouiller comme ça. Voilà.
Et alors, il y a deux questions quand même qui se posent. Cette compagnie, elle est déjà, au départ, elle était composée, qui y avait-il dedans?
Alors, voilà, c'est là où je vous disais qu'elle est la conséquence de ce que nous avons appris. Nous sommes adultes, Madeleine et moi. Nous nous connaissons maintenant depuis 10 ans. Et nous voulons créer une compagnie à l'image d'un théâtre de répertoire et innover l'alternance dans le théâtre privé, qui n'a jamais eu lieu jusqu'ici. Nous voulons monter des pièces nouvelles et servir des auteurs nouveaux. Nous voulons monter quelques classiques et pour rajeunir les classiques et faire des progrès dans notre métier. Nous voulons pousser des pointes dans l'avant-garde. Nous voulons continuer de faire des pantomimes, etc. Et nous voulons composer une troupe qui rassemble 3 générations. Nous sommes contre la séparation des générations. Nous estimons qu'une troupe n'est vivante que s'il y a des jeunes gens qui forment la pépinière, des adultes qui en pleine possession de leur métier et qui rapportent, et des anciens, des aînés, qui fournissent la qualité de la greffe. C'est ainsi qu'on cultive une ferme à la campagne. Eh bien, nous voulons créer une compagnie comme on crée une ferme à la campagne. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons de faire depuis 34 ans. Et le pourcentage de nos productions est de 75% de moderne et 25% de classique. Et puis alors, il faut trouver un théâtre. Et bien entendu, comme moi j'ai le sens, j'ai un petit atavisme de commerçant de Paris, il faut absolument que je trouve un théâtre rentable. Alors je demande à Madame Volterra si le Marigny serait libre. Et le Marigny...
Qu'est-ce qui s'y passait au Marigny?
Au Marigny, bah, il y avait par exemple Rému qui avait joué de temps en temps. Mais enfin, pas énormément de choses. D'ailleurs, le Marigny avait une mauvaise réputation... parce qu'il était dans les arbres. Et à cette époque-là, en 1946, on croyait qu'il fallait qu'un théâtre soit sur le passage. N'est-ce pas? Et par exemple, Rému disait « Moi, je ne veux pas jouer dans la forêt ». Même Maurice Chevalier me dit « Tu as tort de prendre le Marigny, parce qu'attention, j'aimerais mieux le théâtre des Champs-Élysées, c'est plus fréquent et il y a un trottoir, etc. » Jouvet me disait, dans 2 mois, tu sais, si tu as besoin de quelque chose, je viendrai à ton secours, etc. Donc, nous prenons le Marigny, n'étant pas encouragés par nos aînés.
Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Quand vous avez parlé, je vous ai posé une question sur la création de cette compagnie. Vous avez dit qu'il fallait qu'une compagnie soit composée d'aînés, de plus jeunes, etc. Et vous n'avez pas dit qui était dans cette compagnie. Qui vous avez suivi, venant de la Comédie-Française, par exemple?
Eh bien,
beaucoup de gens.
Nous avions comme aînés André Bruno, Pierre Renoir... Et Catherine Fontenay, par exemple.
Et Pierre Bertin.
Et non, pas encore.
Il est venu
l'année suivante. Et puis, il n'était pas de notre année. Il aurait fait partie des adultes producteurs, n'est-ce pas? Dans les adultes producteurs, nous avions Régis Soutin, Beauchamp, etc., qui avaient déjà joué avec nous. Et puis, dans la pépinière, nous avions un tas de petits jeunes gens, comme Jean-Pierre Grandval, le fils de Madeleine, ou comme De Sailly et Simone Valère, par exemple. C'était des tout jeunes gens.
De Sailly, Simone Valère, ils étaient déjà à la Comédie Française, ils avaient été à la Comédie Française.
Non, De Sailly était allé un an, puis après on l'avait chassé parce qu'il avait voulu faire un film. Enfin, il avait été comme pensionnaire. Enfin, et puis Dacmine, par exemple, que j'avais pris dans le rôle d'Hippolyte pour Phèdre, eh bien, pouvait revenir chez nous. Dacmine a joué dans Occupe-toi d'Amélie, etc. Et même Amphitryon de Molière. Donc, nous composions cette troupe sur les 3 générations. Et ça, je crois que c'est ça qui donne le relief. Et puis, nous avons imposé dès le début l'alternance. Et ça, ça n'avait jamais été réussi. L'avantage de l'alternance, il y a beaucoup d'avantages, des inconvénients. Ça coûte cher, l'alternance coûte cher, on ne peut pas faire fortune. Mais on peut plus difficilement faire faillite. Parce que quand on a une pièce qui ne marche pas, il y a toujours 2 ou 3 pièces qui ont eu un succès, qui sont des pièces Saint-Bernard et qui peuvent revenir à l'affiche et faire vivre la compagnie. Vous comprenez? Et alors, ça nous permet également de pouvoir garder à l'affiche un succès tout en continuant de travailler. Je vous ai parlé peut-être de l'impression que j'avais eue au théâtre de l'Atelier avec Volpone, Dulin, n'est-ce pas? Eh bien, si tout à coup on a un succès...
Dulin perdant sa clientèle.
Voilà. Tandis qu'avec l'alternance, on ne perd pas la clientèle des fidèles, qui, eux, continuent de venir voir les nouveaux travaux, tout en nous permettant de garder à l'affiche
un succès. Et cela, tout cela, vous
sans, sans l'alternance, j'aurais pas joué Hamlet 25 ans de suite.
Et tout cela, vous en étiez conscient. En 1946, vous avez décidé tout de suite que ce serait comme ça.
Absolument. Et c'était délibéré. C'est pour cela que nous voulions créer ce théâtre de répertoire et cette compagnie. C'était donc le résultat de tout ce que nous avions reçu, des différentes greffes que nous avions reçues, et nous voulions faire, sur le plan du théâtre privé, ce qu'on fait dans un théâtre national.
Oui, c'était quand même très très courageux. Et quels ont été alors vos premiers spectacles ? Hamlet ?
Le 17 octobre 46, Hamlet. 24 octobre, Les Fausses Confidences et la Pantomime des Enfants du Paradis, c'est-à-dire une semaine après. Puis, Création des Nuits de la Colère de Salacrou, un mois après, etc. Et pendant 2 ans, nous avons eu 6 succès de consécutifs, dont Occupe-toi d'Amélie. Mais montez Occupe-toi d'Amélie, quand on a à l'affiche Hamlet et le procès de Kafka, c'était encore une audace, un scandale. Même chez, à l'intérieur de notre compagnie, on disait, mais vous êtes fous de monter du Feydeau alors que vous jouez Molière, vous jouez Shakespeare et vous jouez de l'avant-garde comme le procès de Kafka. Et on répondait, pas du tout, Feydeau est d'avant-garde, il mérite d'être un classique, et Occupe-toi d'Amélie est un chef-d'œuvre.
Est-ce que vous avez été attiré par Feydeau parce que ça plairait au public, parce que c'était amusant, ou parce que ça vous paraissait un auteur essentiel, important?
Parce que Feydeau est un auteur de génie, et que je vis avec Feydeau. On peut vivre dans la tragédie, et on peut envisager la tragédie sous l'angle de l'absurde. Eh bien, l'angle de l'absurde qu'a observé Feydeau est génial. C'est un grand poète du comique.
Jusqu'à vous, Feydeau n'avait été joué que dans des théâtres, enfin disons, de divertissement pur.
Peut-être, mais...
Il n'avait pas été monté à la Comédie Française, il n'avait pas... On avait monté...
Vaudoyer avait monté Feu la mère de madame.
Oui, c'est ça, c'est tout.
Oui, c'est un acte, n'est-ce pas? Mais, en effet, c'était la première fois qu'on montait un spectacle entier de Feydeau. D'ailleurs, il y a des personnes qui étaient choquées que nous jouions Feydeau, que Madeleine Renaud, la divine araminte des Fausses Confidences de Marivaux, joue Amélie. ça leur paraissait scandaleux. Mais ça n'était pas scandaleux parce que dans tous les auteurs de génie, il y a un grain de folie. Il y a un grain de folie chez Claudel et il y a un grain de folie chez Feydeau.
Sûrement, oui.
N'est-ce pas? Et il est d'une telle observation qu'on ne peut pas oublier Feydeau. Et je crois qu'il tient très bien sa place au milieu des plus grands.
Et au moment, je me rappelle qu'au moment où vous avez monté au Culte d'Amélie, on ne parlait pas encore, on n'avait pas employé l'expression du théâtre de l'absurde, mais l'absurde néanmoins était dans l'air. Et vous aviez comparé Feydeau, vous n'aviez pas hésité à comparer Feydeau à Kafka.
Absolument. Absolument. Il y a des moments kafkaïens chez Feydeau. Et puis il y a des associations d'idées de poètes, n'est-ce pas? Quand le père d'Amélie, qui est un ancien sergent de ville, apprend que le prince de Palestrie va venir, alors que la venue du prince de Palestrie a été précédée par une corbeille de fleurs, eh bien immédiatement sa fonction d'agent de police revient et il dit à tout le monde, allez, derrière les arbres, c'est-à-dire derrière la corbeille. On se croit immédiatement avenue des Champs-Élysées, derrière les arbres, parce que le prince de Palestrie va passer. C'est d'une association d'idées rapide et complètement folle et purement poétique.
Et alors, pour continuer ce parallèle, vous avez monté alors également aussi une date importante. Vous avez été le premier à adapter Kafka au théâtre. Et c'est une idée déjà ancienne que vous aviez, non?
C'était une idée que j'avais déjà du temps de la Comédie Française, n'est-ce pas? Mais j'avais écrit à Gide pour lui demander s'il ne pourrait pas m'aider à adapter le procès.
Et pourquoi Gide? Ça paraît étrange.
Parce que c'était au moment d'Antoinette Cléopâtre, etc. On se voyait beaucoup. Et puis alors, j'avais demandé à Gide de terminer sa traduction de Hamlet. Le Hamlet que j'ai joué à Marigny était dans la traduction de Gide. Et j'aimais beaucoup travailler avec Gide. Et alors, lui m'avait dit, je ne vois pas comment on peut adapter le procès, mais vous devriez demander à Sartre. Et alors, j'ai dit, bien, Sartre, on n'est pas libre, je vais donc le faire tout seul. Et un jour, je suis allé chez Gide, Il était malade, il était couché dans son lit. Et je lui ai lu mon adaptation du procès de Kafka. En lui demandant si ça vous plaît, vous pourriez m'aider à écrire le texte. Et alors, à la fin de cette lecture, le lustre de la chambre tombe, me tombe dessus. Et Gide s'exclame en disant « Oh, c'est merveilleux, le lustre vient de tomber, alors je vais vous aider à écrire le texte des procès de Kafka. » C'est comme ça que nous avons collaboré pour adapter le procès de Kafka.
Il faudrait peut-être un peu dire ce que c'était, dans quel esprit vous aviez monté cette pièce dont, personnellement, et je crois tous les spectateurs de l'époque ont un grand souvenir, mais j'aimerais un peu que vous disiez dans quel esprit vous l'aviez monté. Un esprit assez juif, il me semble, judaïsant, enfin.
C'est-à-dire que Kafka, c'est la Bible, mais ce n'est pas tellement le côté religieux de Kafka qui me tentait, c'était le côté administratif et toujours la solitude, le problème de la solitude. Dans une petite rencontre que nous avons eue récemment, je me suis permis de vous dire que secrètement, le Jean-Louis cherchait toujours quelque chose quand il entreprenait un travail. Eh bien, quand on voyait les spectacles que j'avais montés personnellement, il y avait le thème de la solitude. Solitude dans la famille, solitude dans la société, solitude religieuse, etc. Hamlet, c'est un solitaire. Le bâtard de Tandis que j'agonise, c'est un solitaire. Solitude familiale, etc. La fin, c'est solitude dans la société. Eh bien, là, il y avait encore le thème de la solitude. Et puis, d'autres choses qui m'intéressaient, c'est la simultanéité des scènes. Que des scènes puissent se jouer en même temps à des endroits différents. Et le procès de Kafka me permettait de développer ça. Gide, justement, en avait très peur de cette recherche-là. Mais je lui disais, c'est surtout ça qui va être intéressant. C'est que, par exemple, dans la banque, se passait une scène alors que chez le notaire se passait une autre scène, enfin chez l'avocat se passait une autre scène, et en même temps à des lieux différents. Il y avait donc une esthétique théâtrale qui pouvait me permettait de faire des propositions à d'éventuels auteurs modernes.
Mais il y avait quand même, surtout chez Kafka, maintenant l'univers de Kafka nous est familier, au point que je crois que c'est à peu près après votre spectacle qu'on a commencé à dire à propos de beaucoup de situations, ouais, c'est kafkaïen, c'est-à-dire des situations sans issue, sans raison, où l'on ne connaît, où il y a une espèce de logique impitoyable et dont on ne connaît ni le commencement, ni la fin.
Et puis c'est cette angoisse qui grandit, et on est pris à la gorge. Hein. La poire d'angoisse dont parle Rabelais. Quand tout à coup, dans le procès de Kafka, je me rappelle, bien, le héros a l'impression que les marches de l'escalier se ramollissent et qu'il entre dans les marches dans l'escalier comme on entrerait dans des sables mouvants. Et parce que tout à coup, il est étourdi et la présence étouffante des autres l'amène presque jusqu'à l'évanouissement. Manque d'égard envers le public, c'est une phrase que j'ai. Manque d'égard envers le public, c'est une phrase merveilleuse, on pourrait le mettre ça.
Et je crois que ce spectacle avait été un grand succès. Et même Claudel, non, l'avait beaucoup aimé.
Claudel avait beaucoup aimé le
malgré Gide.
Oui, il avait écrit un article merveilleux dans le Figaro, je crois, à propos du procès de Kafka. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, depuis, j'ai monté le château et puis l'Amérique.
Oui, bien sûr, oui. Mais ça, nous y viendrons une autre fois.
Le seul procès de Kafka, c'est en 47.
Et il y a eu un autre auteur aussi qui a fait son apparition chez vous, à ce moment-là, au Marigny, et qui est Camus.
Oui.
Aussi, ça a été une date, mais alors là, ça s'est passé moins bien, tout de même.
C'est-à-dire que j'avais entamé un travail sur la peste, d'après le journal de la peste.
De Defoe.
De Defoe.
Et à cause d'Artaud.
Oui. On en parlait avec Artaud, et c'était la purification par les forces noires. Là-dessus, Camus écrit La Peste, et qui est édité chez Gallimard. Et comme j'ai toujours eu un complexe d'infériorité, et très timide, j'écris à Camus en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer pour travailler justement à ce thème, car il m'avait fait passer en 42 Caligula. Hein, mais j'étais à la Comédie-Française, j'ai pas pu créer Caligula. Et alors, nous entendions admirablement. Et moi, j'avais une très grande admiration pour Camus. Et je me disais, Camus va devenir l'auteur de la compagnie. Ça sera merveilleux, car j'estime qu'une compagnie n'est prospère que lorsqu'elle a un auteur attaché à sa vie. Comme j'ai eu Claudel, comme la Compagnie des 15 a eu André Aubet, etc. Comme Jouvet a eu Giraudoux, comme à un moment donné, Dulin avait Salacrou et Jules Romain. Eh bien, j'attendais énormément de notre travail commun avec Camus. Et alors, nous avons fait l'état de siège d'après son livre, d'après l'histoire de la guerre, car il était encore à combat, il était assez journaliste et polémiste, et puis d'après le journal de la peste. Et nous ne sommes pas rendus compte, dans notre euphorie, qu'on traitait deux sujets en un. C'est que la peste, pour de faux, c'est la purification par les forces noires, mais la peste pour Camus, c'est l'hitlérisme, sont les nazis, c'est la... Alors, il n'y a rien de purificateur là-dedans. C'est bien que nous nous sommes trompés. Et l'état de siège a été un flop, et un échec, qui nous a fait beaucoup de mal. Notre amitié est restée la même, mais ça nous a cassé pour des travaux futurs. Et alors là, c'est ça ce que je regrette.
Nous reviendrons sur le Marigny dans un prochain entretien, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais tout de même, nous sommes à un moment où le théâtre en France, je voudrais faire une petite extrapolation, où le théâtre se modifie en France. Et il y a en particulier une date importante à ce moment-là, qui est l'année 1951, et où se crée le TNP, et où s'est créé un petit peu partout en France un nouveau genre de théâtre, qui sont des théâtres, en gros, des théâtres populaires, des théâtres subventionnés, c'est-à-dire que la Comédie française n'est plus seule, qu'il y a d'autres troupes, et comment vous avez réagi, vous, compagnie privée, faisant un travail que d'autres ont fait ensuite, mais avec beaucoup d'argent, subventionné. Et comment avez-vous réagi à cette espèce de transformation subite que d'ailleurs vous aviez favorisée d'une certaine façon?
Oui, et à laquelle j'ai applaudi.
Oui. Donc, mais enfin, est-ce que pour vous, c'est sur le public, par exemple, est-ce que ça fait un changement? Le fait, par exemple, que les gens pouvaient aller, à partir de 1951, pouvaient aller au TNP, voir de fort beaux spectacles, pour des prix dérisoires, alors que vous étiez obligé, théâtre privé, de faire payer des places beaucoup plus chères.
Oui, c'était une difficulté.
Est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation à ce moment-là des publics?
Je ne crois pas. On a le public qu'on mérite.
Oui, mais il y a cette question d'argent qui joue un rôle.
Nous avions des places bon marché et nous avions un fort pourcentage d'étudiants et de jeunesse qui venaient au théâtre Marigny. Seulement,
vous étiez quand même condamné au succès.
Ah oui, nous étions condamnés au succès. C'était le stimulant.
Oui, bien sûr. Mais en fait, je veux dire, il fallait vraiment que toutes les places soient prises pour que le théâtre soit rentable.
Je dois avouer que je n'ai jamais été doué pour le recrutement du public. Or, ce mouvement dont vous parlez, non seulement avait une qualité artistique sur le plan théâtral et sur le plan de la scène, mais il y avait une organisation nouvelle pour le recrutement du public, qui était tout à fait... ça, c'était tout à fait nouveau. Moi, je ne suis pas doué pour ça.
Mais vous auriez pu avoir quelqu'un auprès de vous qui... Est-ce que c'était possible?
C'est-à-dire que si je faisais la comparaison avec l'industrie automobile, eh bien, j'aurais plutôt fait penser à Voisin ou à Ligier plutôt qu'à Citroën ou à Renault.
Sans jeu de mots.
Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le tirage ne m'intéresse pas.
Non, ce que je veux dire, est-ce que tout de même l'apparition de ce mouvement, de cette multiplication des théâtres subventionnés par rapport à ce qu'était le Marigny, n'a pas été un handicap pour vous subitement tout de même? Parce que vous ne receviez pas d'argent tout de même du gouvernement.
Oui, nous ne recevions pas d'argent, mais on nous envoyait beaucoup à l'étranger.
Ah voilà, oui.
Ça a été la vie de tournée de notre compagnie était très très importante pour la continuation et la survie de notre compagnie. C'est que nous avons commencé à faire des grandes tournées internationales en 50, c'est-à-dire un ou deux ans avant la création du TNP. Oui. Et quand nous sommes partis...
Et vous avez fermé le théâtre à ce moment-là?
Bien, ce qui rendait possible notre économie, c'est que nous n'étions pas chez nous. Nous passions un contrat avec la directrice du théâtre Marigny, Madame Volterra, un contrat de 6 mois, ou de 7 mois, ou de 7 mois et
chaque
demi.
Chaque fois renouvelable.
Oui, alors on avait un contrat pour 3 ans, par exemple, mais allant du 15 septembre au 15 mai. Mais le reste du temps, nous n'étions pas responsables du théâtre. Il ne nous coûtait rien. Mmh. Alors nous avions une économie uniquement artistique.
Et vous étiez sûr de le retrouver après, quand vous reveniez ?
Ça nous est arrivé de ne pas pouvoir le retrouver. C'est-à-dire que la première fois, nous avons fait d'abord 6 ans. Avec Marigny. Puis il y a une année où Mme Volterra a voulu reprendre son théâtre pendant un an. Puis après, nous avons fait 3 ans, si bien que nous sommes restés 10 ans en tout à Marigny. Oui, mais par 2 fois, nous sommes restés 15 mois hors de Paris. Quand nous sommes partis en 50 pour l'Amérique, en 52, nous sommes partis pour l'Amérique du Nord. Eh bien, nous ne sommes revenus que l'année d'après, au mois d'octobre, c'est-à-dire 15 mois d'absence. Nous avons eu des périodes où nous n'étions pas à Paris pendant 15 mois, et nous faisions nos créations ailleurs.
Par exemple ?
Eh bien, en 54, nous avons créé La Cerisée à Buenos Aires.
À Buenos Aires.
Et à Rio de Janeiro, n'est-ce pas ? Et nous avons créé une histoire de Vasco à Zurich.
Plus tard.
Etc.
Après, oui, bien sûr.
Enfin, nous sommes restés plusieurs fois 15 mois absents de Paris.
Et puisque vous évoquez ces tournées...
Cette tournée a été très, très intéressante pour nous et très utile.
Puisque vous évoquez justement ces tournées en 52, enfin dans ces années-là, comment étiez-vous accueilli à l'étranger, aux États-Unis par exemple ? La France, il y avait une espèce de préjugé favorable.
Je vous citerai en toute simplicité et modestie ce qui était écrit dans les journaux et qu'on a fait reproduire comme des affiches. « French can do everything ». Les Français savent tout faire.
Qu'est-ce que vous aviez présenté à New York à ce moment-là ?
Eh bien, nous présentions Hamlet en français.
En français, oui.
Les Fausses Confidences et Baptiste, la pantomime des Enfants du Paradis qui était... où toute la 5e avenue avait des Pierrot, des Baptistes sur les devantures de la 5e avenue. Nous avions la répétition d'Anouilh, nous avions Occupe-toi d'Amélie, nous avions le procès de Kafka, Amphitryon et Scapin. Eh bien, évidemment, nous avions Molière, nous avions etc., tout. Et là, les Américains ont été étonnés qu'on puisse jouer à la fois le procès de Kafka, Occupe-toi d'Amélie, Molière, etc.
Et en Amérique du Sud.
C'est d'ailleurs assez amusant parce que jouant Hamlet en français, il y a des Américains qui ont compris des choses qu'ils ne comprenaient pas dans l'anglais de Shakespeare. Et un jour, il y avait des spectateurs américains qui revenaient pour la 3e fois voir les Fausses Confidences de Marivaux. Et un de leurs amis leur dit : ça fait 3 fois que je vous vois. Mais vous ne comprenez pas le français. Et il répond, non, mais je viens les écouter comme on écoute les oiseaux.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, fondation de la compagnie Renaud Barrault. Par Guy Dumur. Assisté de Janine Antoine.
Vous venez d'entendre le 6e volet des entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusé pour la première fois sur France Culture le 23 février 1981. Tout de suite, le 7e moment de cette rencontre.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Par Guy Dumur. Aujourd'hui, 7e émission, de Paul Claudel à Pierre Boulez.
Nous vous avons laissé Jean-Louis Barrault en pleine activité au théâtre Marigny, qui a été tout de même une période très très active, particulièrement. Vous avez toujours eu une vie active, mais enfin, le Marigny, ça a été, vous avez mis les bouchées doubles. Vous avez parlé justement la dernière fois de ce système d'alternance qui vous obligeait à monter plusieurs spectacles par an, et les 9 dixièmes de ces spectacles étaient montés par vous, parce que dans les 10 ans que vous avez passé au Marigny, vous avez, si mes souvenirs sont bons, vous avez monté 45 spectacles, ce qui est énorme.
Je crois, oui, au moins, oui.
Oui, c'est énorme, ce qui représente près de 5 spectacles par an. Vous avez présenté, en tout cas, oui.
J'avais demandé à Villard de monter l'Édipe de Gide, et puis j'ai demandé à Jouvet de monter le Scapin.
Les Fourberies de Scapin.
Ça a été pour moi une très belle expérience, parce que ça m'a permis de bien connaître Jouvet et de faire connaissance avec sa maîtrise. C'était merveilleux.
Mais vous étiez Scapin, mais ça a été un moment un peu triste quand même de l'histoire du Marigny, puisque c'est à ce moment-là que Christian Bérard, le décorateur, merveilleux décorateur, est mort.
Oui, il est mort devant son décor. Il est mort devant son décor. Nous avions joué Partage de Midi et on devait faire les éclairages des Fourberies de Scapin après la représentation de Partage de Midi. Jouvet devait venir nous rejoindre à Marigny. Et quand le décor de Scapin a été monté sur scène, Bérard était dans la salle avec sa petite chienne Jacinthe, un petit Ténérife qu'il ne quittait pas. Et il a dit « Oh ben tiens, ça me plaît parce que c'est du théâtre pour chiens ». Et puis il s'est mis alors à avoir une congestion et il s'est écroulé dans l'allée centrale. Il était mort. Alors ça a été épouvantable parce que Jouvet est arrivé, il a compris tout de suite parce que Jouvet était pharmacien et ma moitié docteur. Mais alors il a fallu emmener Bérard pour essayer de le ranimer à l'hôpital. Ils n'ont pas pu. Alors, comme c'était Bérard et comme c'était Jouvet, ils ont permis qu'on sorte le cadavre de l'hôpital, ce qui est interdit, mais à la condition qu'il soit pris par une voiture de police et de sortir debout. Alors, on l'a sorti debout. On l'a mis dans une voiture de police et dans rue Casimir de la Vigne, où habitait Bérard, on l'a monté debout. Enfin, vers 3 ou 4 heures du matin, on l'avait couché. J'ai pris son imperméable pour entraîner la petite Jacinthe, la petite chienne. Et depuis la rue Casimir de la Vigne, c'est-à-dire l'Odéon, pratiquement, je suis revenu à pied au petit jour, et au Trocadéro, là où nous habitons, avec ma petite Jacinthe qui suivait l'imperméable de 100 mètres. C'était déchirant et ça l'est encore pour moi. Bérard a donc été enterré le 17 février, je crois, le même jour que la mort de Molière. Et le soir, on jouait. C'était la générale des Fourberies de Scapin. Et alors, à la fin, c'était la tradition d'annoncer, de faire les annonces à cette époque-là. Et j'ai fait l'annonce pour que le décor et les costumes sont de Christian Bérard. Il n'y a eu aucun applaudissement, bien sûr. Toute la salle s'est levée. Et tout à coup, le rideau est tombé comme une guillotine. Le rideau de lui-même s'est cassé. C'est beau, il y a un mystère dans le théâtre.
Terrifiant. Ouais. Je me rappelle parfaitement ce très beau décor des Fourberies de Scapin, car Christian Bérard a eu une grâce dans la décoration qui était très très extraordinaire. Et quels autres décorateurs vous avez utilisés au Marigny?
Les décorateurs, enfin les peintres auxquels j'ai fait appel le plus souvent, c'est d'abord en premier lieu Félix Labisse qui a fait les décors de Tandis que j'agonise. Et puis, en second lieu, André Masson, qui était toujours présent à chaque tournant de ma vie, puisqu'il avait fait des décors de Numans, puis les décors de Hamlet.
Et également, d'ailleurs, à propos de Numans, justement, l'emblème de votre compagnie.
Le bucrane, de Masson, et nous l'avons gardé comme emblème de la compagnie. Et puis, à chaque fois, à chaque tournant de notre vie, on trouve André Masson pour Tête d'or, etc. Brianchon a été un décorateur.
Pour les fausses confidences.
Pour les fausses confidences, pour Marivaux particulièrement. Max Ernst, et puis Couteau.
Plus tard.
Si on faisait la liste, on aurait beaucoup de peintres, de grands peintres, qui ont bien voulu penser théâtre pour nous.
Alors, il y a à propos des Fauritz Capin, vous avez prononcé le titre de Partage de Midi de Claudel. Et dans des précédentes émissions, nous avons parlé de Claudel et de vos rapports privilégiés avec Claudel. Et si vous aviez vaincu des réticences pour le Souillé de Satin, les réticences, vous les avez évoquées d'ailleurs à l'époque, pour monter Partage de Midi, étaient encore plus grandes, puisque Claudel ne voulait pas que l'on connaisse cette pièce.
Oui, j'ai beaucoup insisté. Et j'ai tellement insisté qu'un jour, il m'a dit, écoutez, revenez dans 3 jours, je vais demander à mon conseiller spirituel, c'est-à-dire son confesseur. Et 3 jours après, je reviens et il me dit, ah, vous voilà, tentateur. Eh bien, je vous donne Partage de Midi parce que j'ai obtenu l'autorisation que vous montiez Partage de Midi. C'est mon confesseur qui m'a dit, vous devriez accepter. Alors j'ai demandé le numéro de téléphone du confesseur, je suis aussitôt téléphoné, et le confesseur m'a dit, mais quand Claudel m'a dit ça, j'ai dit, il faut absolument que vous laissiez le Partage de Midi à Jean-Louis, ça fera beaucoup de bien aux spectateurs, vous verrez, vous aurez beaucoup de conversions. Il a fait un petit mensonge, mais pas tout à fait faux, parce que effectivement, quand nous jouions Partage de Midi, il y a quelqu'un qui s'est converti, qui a envoyé une lettre à Claudel.
Tout de même, rappelons un peu les circonstances de cette œuvre. Effectivement, les circonstances privées, c'est que bon, Claudel a eu un grand amour de jeunesse pour une femme mariée, qu'il a connue en allant en Chine, et puis il a écrit cette pièce inspirée par cet amour. Puis alors ensuite, il s'est marié, il n'a plus voulu qu'on monte cette pièce, on comprend. Mais ça a duré quand même très longtemps, il n'y a pas là quelque chose qui vous paraît quand même un peu surprenant?
Ça n'était pas seulement catholique et religieux, c'était pudique. Et car, et comme je vous l'ai dit, au cours du travail que nous faisions autour de Partage de Midi, il m'a dit un jour, il y a des cris qu'un homme n'a pas le droit de pousser. N'est-ce pas? Et particulièrement à propos de la grande scène qui se passe au deuxième acte, il y a une frénésie érotique et passionnelle, n'est-ce pas, qui le gênait. Et alors, à ce moment-là, un jour, il m'a dit, je voudrais qu'on coupe ça, c'est épouvantable, etc. Et je lui ai répondu, ça ne vous appartient plus, vous avez écrit ça il y a plus de 40 ans, c'est dans le domaine.
C'est la scène dans le cimetière chinois.
C'est ça, c'est dans le domaine. Et alors, quand j'ai eu l'air de lui dire que les questions sexuelles ne lui appartenaient plus, en tremblant du genou, il me dit, ah, vous croyez que ça ne m'appartient plus? Il avait à ce moment-là 80 ans, alors je lui dis, écoutez, je vous tire mon chapeau. Non, il était déchiré par cette histoire, qui était encore présente dans sa peau. Et quand nous avons joué avec Edwige Feuillet Partage de Midi, j'ai été présenté Edwige Feuillet à Claudel.
Et pourquoi vous avez choisi Edwige Feuillet?
Parce qu'elle me paraissait l'actrice, d'abord avec beaucoup de talent et que j'admirais beaucoup.
Beaucoup de talent, mais qui n'avait pas fait ce genre de théâtre.
Mais physiquement, l'actrice qui convenait le mieux à Isé, n'est-ce pas? Et alors, son physique. La muse de Partage de Midi, n'est-ce pas, de cette femme dont vous parliez, était polonaise, n'est-ce pas? Et alors, je croyais que Edwige Feuillet pouvait se rapprocher. Effectivement, quand j'ai été présenté Edwige Feuillet à Claudel comme une fiancée, ça, il a été bourru. Et en sortant, Edwige me dit, c'est fichu, il ne voudra pas de moi. Et le lendemain, j'ai appris, c'est de Claudel, qu'il a été bourru parce qu'il avait été bouleversé car elle lui ressemblait, m'a-t-il dit. Alors il ne savait plus quoi dire. Et quand il venait assister aux représentations à Marigny...
Aux répétitions
répétitions, puis aux représentations, il venait très souvent.
Il venait beaucoup aux répétitions?
Oui.
Et il surveillait, si je puis dire.
Oui, mais on s'entendait très bien. C'était un véritable homme de théâtre. Il avait le sens du théâtre et pas du tout le sens de son texte. Quelquefois, il lui est arrivé de me dire, mais écoutez, écrivez la phrase, vous me connaissez bien. N'est-ce pas? Il n'était pas du tout à cheval sur les points virgules, sur la syntaxe et tout ça.
Et il avait un sens, je veux dire, pratique du théâtre, il était capable d'indiquer un jeu de
tout
scène.
Tout à fait. de par son éducation d'Extrême-Orient. Il avait beaucoup vécu en Chine et au Japon, et il avait le sens du théâtre plastique. Il avait le sens de l'objet catalyseur. Par exemple, quand nous avons monté l'échange à Marigny, eh bien c'est lui qui a inventé cette histoire de balançoire. Parce que cette balançoire était un objet catalyseur qui faisait bien tourner tout le sujet.
Il n'y avait pas pensé avant que vous la montiez.
Non, oui. Il voyait des choses nouvelles quand il était au pied du mur, n'est-ce pas, quand on allait réaliser cette chose-là. Et alors donc, je dis, quand il assistait aux représentations de Partage de Midi, à la fin, il venait couvert de larmes, me dire au revoir. Et puis, il s'en allait. Et je lui disais, mais, et Isée, vous ne me dites pas bonsoir? Quoi? J'ai rien à lui dire. Edwige. Ah oui, 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 Edwige. Alors, il allait embrasser Edwige.
Vous lui dites que vous aviez l'impression qu'il était replongé entièrement
dans son histoire, dans sa passion, ce qui était magnifique. Parce que toute la compréhension de l'aventure humaine de Claudel est dans Partage de Midi. C'est le nœud de son œuvre. C'est là où il boue. C'est le creuset de son œuvre. Il rencontre l'interdiction. Puis il repart vers une nouvelle vie, ayant l'impression d'avoir été refusé par Dieu, alors qu'il voulait à un moment donné quitter la vie diplomatique et faire moine. Il a fait un stage à Ligugé, n'est-ce pas? Et les moines ont sans doute été très très intelligents et lui ont fait comprendre que sa vraie destinée était de souffrir en poète et non pas d'être confortable en moine. Quoique les moines ne doivent pas être si confortables que ça, j'imagine, mais enfin, c'est une autre souffrance.
Ce Partage de Midi était une très belle représentation. D'abord parce que la pièce est superbe. Je crois que Claudel en a réécrit des passages à ce moment-là.
Oui.
Il a remanié.
Il a remanié, mais quelquefois en mieux. Par exemple, le premier acte est meilleur dans sa deuxième version que dans sa première. Il a même fait une troisième version après que nous ayons créé Partage de Midi. Si bien que la version de notre compagnie, c'est la deuxième version. Elle n'existe que dans les œuvres complètes. La troisième version qu'il a voulu éditer séparément, eh bien, c'est une version que nous n'avons pas voulu jouer. Que nous n'avons pas joué d'abord parce qu'on a joué avant, et ensuite que je n'aurais pas voulu jouer après parce qu'elle était un petit peu plus édulcorée.
En dehors de la pièce elle-même, superbe, et bien entendu de votre mise en scène, du décor de la bise qui était très beau, vous aviez une distribution fantastique, parce que vous étiez vous-même Méza, il y avait Edwige Feuillère, il y avait Brasseur, il y avait Dacmine.
Oui, oui. Moi je manquais un petit peu de puissance, n'est-ce pas? J'étais un petit peu mince, j'ai toujours été un petit peu mince, je me suis toujours trouvé un peu mince, je donnais certainement le côté passionné
et
petit curé.
Il me semble qu'il y a des allusions très précises dans la pièce à Rimbaud, et je crois que au fond, Claudel compare Méza à Rimbaud, et vous aviez ce physique brûlé, comme ça, qu'on imagine au Rimbaud d'Abyssinie.
Mais d'ailleurs, Rimbaud a toujours été présent dans le cœur de Claudel et dans ses préoccupations.
Depuis, à ma connaissance, il n'y a jamais eu qu'une autre mise en scène du Partage de Midi, c'est celle de Vitesse à la Comédie Française. Est-ce que vous l'avez vue?
Non.
Vous n'avez pas voulu la voir?
Non, je n'ai pas voulu la voir, d'abord, parce que ça s'est fait dans des circonstances un petit peu désagréables.
Ah bon? Comment ça?
On ne m'a pas prévenu.
Ah, et vous aviez les droits, en fait?
J'avais...
Les droits moraux, en tout cas.
Pas tellement longtemps qu'on avait joué Partage de Midi. Et puis, ensuite...
Pas tellement longtemps, c'est-à-dire quoi?
Au Théâtre de France, oui. Et puis, j'ai beaucoup d'admiration pour Vitesse, je le trouve extrêmement intelligent, et à chaque fois que je le rencontre, je passe un très bon moment. Mais de deux choses l'une, ou c'est mauvais, ou c'est bon. Si c'est mauvais, ça me met en colère, si c'est bon, je souffre horriblement. Alors, je ne lui en veux pas, j'en veux à personne, mais je m'en vais.
Cela dit, c'est une question que j'aurais voulu vous poser à un moment ou à un autre, c'est peut-être pas exactement le moment, mais est-ce que vous allez beaucoup au théâtre? N'allez pas tellement au théâtre.
Il m'est arrivé de répondre, pour me débarrasser quelquefois de la personne, quand on me dit « Est-ce que vous allez au théâtre? Pourquoi vous faites des théâtres ?» Je réponds « J'ai fait du théâtre pour m'éviter d'y aller. » Mais cela dit, je vais quelquefois au théâtre, et... Quand c'est bien, je suis très très content, très heureux, n'est-ce pas? Je ne connais pas la jalousie, je ne connais que la colère quand c'est mauvais, contre les autres et la colère contre moi quand c'est très bon et que c'est pas moi qui l'ai fait.
Oui, mais enfin, c'est autre chose. On peut faire autre chose que ce que vous feriez. Par exemple, le partage de midi, de vitesse, était différent du vôtre. C'était très beau, surtout à cause d'une actrice qui était Ludmila Mikhaël. C'était très différent et ça ne détruisait pas du tout le vôtre.
Enfin,
ça ne...
Non, mais enfin, j'en sais rien. C'est pas...
oui. Mais justement, à propos, pour revenir à l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire aux années 50 déjà, il y a eu un grand événement à Paris auquel vous êtes, semble-t-il, resté étranger. Ça a été la découverte de Brecht à travers le Berliner Ensemble. Le Berliner Ensemble est venu pour la première fois en 1954. Ça a été une très grande révélation du point de vue du théâtre, de la mise en scène, du fonctionnement des acteurs, des costumes, etc. Et curieusement, vous n'avez jamais monté Brecht. Vous ne vous êtes jamais intéressé à Brecht.
J'aime beaucoup Brecht en tant que poète dramatique. Je suis un petit peu plus réticent sur les brechtiens. La distanciation, quand on assistait à un spectacle du Berliner Ensemble, la distanciation était minime. Parce qu'il n'y avait que de grands acteurs, et puis on jouait admirablement, c'était du superbe théâtre. Et Brecht est un grand poète de théâtre. J'avais été voir Brecht à Berlin-Est, il y a quelques années, et il voulait que je monte Galiléo. Et puis, Villard, que j'aimais beaucoup comme un frère, avait pris Brecht. Moi, j'avais Claudel. Et je n'allais pas lui chiper un Brecht comme ça. Nous avons été sur le point de monter Simone
Les
Machard.
Les visions Simone Machard, oui. Hein,
que nous aimions beaucoup. Mais à ce moment-là, du côté de l'Arche, on était très difficile.
Ah oui, les éditeurs de Brecht en France.
Alors, il y avait des gens qui voulaient surveiller la mise en scène, qui voulaient surveiller... Oh, tout ça me fatiguait. Ils étaient vraiment intellectuels, n'est-ce pas? Alors ça me fatiguait. Et comme Villard montait très bien le Brecht, et que j'admirais Brecht comme ça, j'avais Claudel.
Il y a une chose que nous n'avons pas le temps, malheureusement, de souligner, enfin, ou de rappeler, c'est certaines similitudes, curieusement, entre Brecht et Claudel.
Absolument.
Parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, le goût de l'Extrême-Orient, du théâtre d'Extrême-Orient.
Ils puisent tous deux dans Shakespeare et dans l'Extrême-Orient. Donc, ils ont le sens de l'humour aussi. D'ailleurs, il y a une phrase de Brecht qui est très curieuse. C'est, il dit, « La seule pièce de théâtre moderne qui m'ait jamais intéressé, c'est le soulier de satin. » C'est curieux que Brecht ait dit ça.
Ça n'a rien d'étonnant.
Non, mais ce sont deux grands poètes. Ils étaient de tempéraments différents, de religions différentes, etc., n'est-ce pas ? Mais ce sont des grands hommes de théâtre, tous les deux.
Cela dit, revenons à vous et revenons au Marigny. Et je pense à quatre spectacles, donc ça c'est encore beaucoup. D'abord Giraudoux, pour Lucrèce, qui était une pièce inédite, une pièce posthume, très intéressante, très importante. Vous aviez déjà monté Intermezzo. Il y a eu le Bacchus de Cocteau, qui a provoqué certains incidents. Il y a eu l'Oresti, qui a été un grand moment aussi, du Marigny. Et puis La Cerisée, également, Tchekhov, où vous abordiez, je crois, Tchekhov pour la première fois, et qui a été une très, très, très belle chose. J'aimerais que vous me disiez tout de même quelques mots des spectacles. Pour Lucrèce, par exemple, de Giraudoux.
J'étais à l'époque très reconnaissant que les héritiers de Giraudoux, Madame Giraudoux et Jean-Pierre Giraudoux, me choisissent pour créer pour Lucrèce, étant donné que Louis Jouvet venait de mourir. J'ai été très honoré et ému de ce choix. Alors effectivement, j'ai étudié les manuscrits de pour Lucrèce et je crois, si je me rappelle bien, qu'il y avait trois manuscrits. Giraudoux raturait peu. Mais comme il avait une mémoire d'éléphant, il écrivait un premier manuscrit, puis il prenait des points de repère pour les changements, et il réécrivait un deuxième manuscrit, à la fois en faisant fonctionner sa mémoire, son sens critique et sa nouvelle imagination. Et il l'a fait par trois couches différentes. Et il en est résulté le manuscrit de Pour Lucrèce, où... la famille m'a permis d'étudier à la fois les trois versions. Et il y avait une distribution, je crois, assez étonnante pour Lucrèce.
Et Louis Feuillère, de nouveau.
Edwige Feuillère, Madeleine, et puis cette chère Debray.
Ah oui,
Yvonne Debray, qui était merveilleuse. Et les hommes de bien, Jean Servais était merveilleux. Ouais. Enfin, non, c'était bien joué. Et ça a eu beaucoup de succès. Pour Bacchus, nous avions une adoration pour Cocteau, il était chez lui, et tout à coup, Cocteau a décidé de monter Bacchus chez nous. Nous en étions très heureux. Alors c'est lui qui a tout fait.
C'était quand même la première pièce de Cocteau que vous montiez.
Oui, c'était la... enfin, c'était Cocteau qui montait sa pièce chez nous, n'est-ce pas? Et nous étions heureux de le servir.
Vous dites, c'est lui qui a fait la mise en scène de Bacchus?
Oui, il a tout fait, les décors, la mise en scène, tout. Et alors, il y a eu évidemment cette petite querelle avec Mauriac, qui a été un petit peu désagréable.
Oui, on avait Mauriac a quitté la salle, parce qu'il y avait des insolences contre l'Église.
Oui, c'est ça, oui. Ça me rappelle, pour venger Cocteau, quand Mauriac a eu son prix Nobel, et il y a un journaliste qui est venu voir Claudel, et un petit peu même d'une façon malicieuse, il lui dit « Est-ce que vous êtes content du prix Nobel de votre grand ami Mauriac ?» Et Claudel lui répond « Je suis enchanté pour mon ami Mauriac, mais je suis un peu surpris qu'on ait donné ce prix international à un écrivain régionaliste. » C'était les petites piques qui s'envoyaient les uns les autres.
mais d'ailleurs, à l'époque, justement, les querelles Cocteau-Mauriac, Claudel Gide, etc. Claudel et Gide se sont rencontrés une fois dans votre théâtre. Ça a failli mal tourner, non?
C'est-à-dire que j'ai failli les réconcilier à la 50e de partage de midi. Claudel était d'accord, mais c'est à ma grande surprise Gide qui a tourné le dos à Madame Claudel.
Autre grand spectacle que j'ai évoqué, l'Orestie.
Alors l'Orestie est très 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 important pour moi.
Oui, bah, je comprends.
C'est un petit peu comme ces grosses pierres sur lesquelles on échelonne une vie, comme Phèdre, etc., comme Numance. Je voulais depuis longtemps monter à un grec. Et puis c'est en Amérique du Sud, au Brésil particulièrement, que j'ai eu la révélation de la magie de l'Orestie. Vous savez qu'il y a des séances d'occultisme au Brésil, et au cours d'une séance d'occultisme où les adeptes sont montés par l'esprit, esprit noir ou esprit indien, j'ai revu la scène exacte où, dans Agamemnon, Cassandre est montée par Apollon. Et par trois vagues successives. Et les trois vagues existent dans Échille. Et les trois vagues existent dans les séances d'occultisme. Ensuite, à Bahia, j'ai assisté à des cérémonies de candomblé qui étaient exactement la cérémonie qu'on voit dans l'écho-effort quand on chauffe Oreste à la température du crime sur le tombeau d'Agamemnon. Et enfin, j'ai assisté en forêt à des séances de Macumba où on retrouve exactement les séances nocturnes que Clytemnestre avait avec les Érinies dans les Euménides. Ça a été le point de départ de mon désir de monter l'Orestie en servant la magie du théâtre grec. Et alors, je me suis mis à étudier l'orchestique grecque. Par exemple, il y a des érudits qui disent que les Grecs connaissaient les cinq positions de la danse classique, mais ne connaissaient pas les pointes, notamment la position de quatrième croisée. Or, la position de quatrième croisée n'est pas une position uniquement de danse classique, c'est la position des pieds d'un derviche tourneur. C'est bien que quand on est en transe d'un derviche tourneur, on ne peut tourner qu'en mettant ses pieds en quatrième croisée. Et tout ça a été très important pour moi. Et avec André Aubet et un dominicain, nous avons disséqué tous les vers de l'Orestie, toute la métrique de l'Orestie, pour pouvoir reconstruire des vers français qui avaient le minutage exact du vers grec. Alors nous avons fait un travail de marqueterie extraordinaire, si bien qu'on pouvait jouer l'Orestie à peu près dans le temps que prenait le texte grec. Ça a été pour nous une très grande expérience. Et puis j'ai demandé à Boulez de faire la musique.
Ben voilà, justement un nom que nous n'avons pas prononcé. Et nous sommes là maintenant presque à la fin du Marigny. Le temps a passé très vite. Et vous avez créé le Petit Marigny, qui était un petit théâtre, où vous avez joué Georges Chéadet, de fort belles pièces. Mais où surtout, on a créé les concerts du domaine musical. Et c'est à partir de ce moment-là, 1953 ou un peu plus tard,
53,
que vraiment date la renaissance de la musique en France. Et cela, Jean-Louis Barrault, on vous le doit.
Quand nous avons créé notre compagnie, en octobre 1946, la musique de scène de Hamlet était de Honegger, un grand ami et un grand protecteur. Et Honegger m'avait fait engager un tout jeune homme de 19 ans qui tenait les ondes Martenot. Ce jeune homme s'appelait Pierre Boulez. Et j'avais demandé à ce jeune homme s'il n'avait pas un petit camarade pour tenir la batterie. Et Boulez m'a amené un petit camarade à lui qui s'appelait Maurice Jarre. Et puis Boulez est resté 20 ans chez nous. Et nous avons fait connaissance avec Boulez, avec ce génie écorché, avec tous les ergots dehors, n'est-ce pas? Et alors, nous avons compris qu'il avait... C'était déjà une encyclopédie musicale. Nous avons compris qu'il fallait l'aider un petit peu. Et alors, créant le petit Marigny, nous avons créé le domaine musical avec Pierre Boulez et puis Suzanne Desnas, etc., quelques personnes. Et c'est effectivement de ce temps-là qu'est parti le domaine musical. Mais Boulez est resté notre enfant et aujourd'hui... Enfin,
il vous est resté très fidèle.
Et Boulez nous a toujours aidés, malgré ses théories musicales. Il
nous a dirigé. Pourquoi malgré?
Bah parce que, par exemple, on lui demandait d'écrire la musique de La Cerisaie, qui n'a pas voulu signer, mais il l'a écrite. Et bien, dans Christophe Colomb, il nous faisait répéter les chœurs de Christophe Colomb, n'est-ce pas?
Mais il a dirigé d'ailleurs la musique de Darius Milhaud. Nous n'avons pas parlé de ce Christophe Colomb, qui était aussi un événement.
Oui. Bon, et qui a été aussi très important, un peu comme l'Orestie, etc. Eh bien, et Boulez se mettait à toutes les sauces pour nous. En nous engueulant, etc. Et nous avons eu des moments de rire avec Boulez, mais désopilants. C'était des moments toujours joyeux. Et je me rappelle quand, pour Partage de Midi, Claudel voulait que on fasse le bruit des étoiles. Il nous avait dit, quand on est suffisamment attentif la nuit, on peut s'apercevoir que les étoiles font du bruit. Alors, avec Honegger et Boulez, une matinée entière s'est passée à démonter le piano, à mettre de l'eau, etc., à vouloir mettre les clés dans le piano, etc., pour essayer d'avoir la bouilloire céleste. Ça a été gondolant et on se tordait avec Honegger, Boulez et moi pour essayer de chercher le bruit des étoiles pour Partage du Midi. Enfin, voyez-vous que notre vie a toujours été une vie de joie et d'émerveillement et de grand rire et qu'on n'a jamais travaillé de notre vie.
Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, de Paul Claudel à Pierre Boulez. Par Guy Dumur. Assisté de Janine Antoine.
C'était les 6e et 7e volets des entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusés pour la première fois les 23 et 24 février 1981. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits. You do something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me lift me through a spell. Do that you do so well for you. Do something to me that no. Thank you.
do something to me that nobody else could, nobody else could do.